Donc, Luc, aide médicale à mourir et environnement, c'est quoi le rapport? Excuse-moi, là.
Non, mais c'est pas juste environnement. Comme je te disais tantôt, il y a une discussion extrêmement intéressante qui a été améliorée, enrichie par un rapport d'expert qui a été déposé au gouvernement sur l'anticipation. Parce que tu sais qu'actuellement, selon la loi, il y avait eu l'arrêt Carter qui permettait à une personne de mettre fin à ses jours en en faisant la demande, mais Wilson Raybould avait ajouté à l'époque où elle était procureure du Canada une disposition qui disait « Oui, mais il faut que la mort soit prévisible, il faut que ça soit vraiment, on puisse déterminer que c'est en fin de vie. » Donc, en fin de vie, là, c'est que tu n'y a plus aucune option. Et donc, ça a laissé tout un paquet de gens souffrants. Donc, des gens qui étaient en souffrance, qui étaient en perte de dignité, en perte de conscience, puis qui disaient « Non, moi, je voudrais l'avoir avant cette notion-là de fin de vie ultime, là, ne me satisfait pas, parce que moi, ma fin de vie n'est pas envisagée. Mettons, je souffre d'une maladie dégénérative, mais je ne suis pas en grande souffrance immédiate, puis je ne suis pas en fin de vie, et je voudrais quand même en bénéficier. » Puis il y a eu le rapport de la juge Beaudoin sur qui est tombé, puis qui a dit, qui leur a donné raison, qui leur a dit « Je pense que vous avez le droit à l'aide à mourir. » Là, maintenant, il y a une nouvelle étape qui dit « Et si on la donnait de façon anticipée? » C'est-à-dire, si on permettait aux gens de dire « À partir du moment où j'ai contracté une maladie, dégénérative, et j'ai encore la conscience, je signe un document qui dit à partir du moment où j'aurais perdu cette conscience-là, où je
rendu à tel stade de
je voudrais pouvoir mourir.
Faculté cognitive, oui. Vous pouvez me donner la piqûre.
Oui, et ça, c'est de façon anticipée. Alors, une large consultation va être lancée sur la place publique et ça nécessite une large consultation parce que c'est un nouveau concept. Pour l'instant, il y a seulement un pays dans le monde qui le permet, l'anticipation. Non, il y en a plus qu'un, mais un significatif, là, c'est la Belgique, il y a aussi le Luxembourg. La Belgique, il y a seulement eu 122 personnes qui se sont prévalues de ce droit, c'est-à-dire ils l'ont demandé et il a été appliqué. Dans certains cas, les personnes sont mortes avant que l'on puisse administrer l'aide à mourir. Dans d'autres cas, ils étaient sur le point de demander, mais ils ont perdu conscience. Donc, ils n'étaient plus capables de faire consciemment la demande. Donc, il restait seulement 122 cas en bout de ligne de personnes. Mais c'est impressionnant quand même que dans le monde entier, là, avec tout ce qu'on sait sur les maladies dégénératives, puis qu'on arrive seulement à un chiffre comme ça de 122 personnes.
Ben, c'est parce qu'on est au balbutiement de ces mesures-là, Luc. Je veux dire, c'est déjà, l'aide médicale à mourir, là, c'est assez révolutionnaire. Il n'y a pas beaucoup de place en Occident où on peut le faire.
C'est ça. Seulement 6 États américains et puis quelques États européens.
Non, vraiment, c'est, on est parmi les précurseurs. Et après ça, tu regardes des directives anticipées. Là, c'est une autre frontière.
Ouais, mais si tu lis le rapport, l'excellent rapport qui était... Ah, c'est vraiment... Là, t'apprends sur la mort en lisant ce rapport-là et tous les enjeux qui l'entourent. Le rapport d'expert qui a été commandé par le gouvernement... Il ressort quand même qu'ils vont un tout petit pas. C'est-à-dire que tu peux demander l'aide à mourir, même si tu es au moment de la demande, tu es en anticipation, tu es en santé, mais tu as attrapé une maladie, la maladie est diagnostiquée, mais tu ne souffres pas encore et tu n'es pas encore en inconscience. Mais l'administration va se faire seulement quand tu vas avoir atteint le stade de souffrance et d'inconscience. C'est pas tu la demandes, tu l'as, là. Et moi, il y a beaucoup de gens à qui j'ai parlé, puis j'ai mis un post Facebook, il y a des gens qui ont interagi avec moi toute la journée là-dessus, puis ils pensaient, ah, grâce à l'aide à mourir, je vais la demander, je vais l'avoir. Non, non, non. Et en plus, ils estiment que tu dois reformuler ta demande à plusieurs reprises pour que ça puisse s'appliquer, parce que il peut se passer, objectivement, il peut se passer des transformations dans ta perception de ce qu'est la maladie. Il y a le paradoxe de l'handicap, qui est le suivant, c'est que tu penses que si tu es handicapé, ta vie est tellement modifiée que tu n'as plus envie de vivre. Mais qu'il y a 50% des personnes qui vivent avec le handicap, par exemple, que tu as contracté, qui sont tout à fait heureuses.
Oui, mais quand tu dis ça, Luc, tu parles de quel type de handicap?
Les handicaps qui mènent à la mort, là, donc des... attends, d'abord, quand on parle du paradoxe de l'handicap, ça, c'est un terme, c'est un concept général.
Moi, ça m'est difficile d'imaginer que, par exemple, je pourrais être paralysé.
Voilà.
Mais il est possible qu'une fois paralysé, j'ai toute ma tête, que je décide que je trouve un bonheur là-dedans.
Totalement. Okay? Et ta perception du bonheur, elle est sans doute pas perceptible avant que tu le sois.
C'est biaisé, en effet. C'est ça. Mais sauf que, écoute, si j'ai la maladie d'Alzheimer... Moi, je connais une femme, j'ai fait une chronique sur elle. Elle a la maladie d'Alzheimer précoce. Elle veut avoir l'aide médicale à mourir anticipée. Okay? Mm-hmm. Sandra de Montigny, j'ai fait une chronique sur elle. Elle a vu son père mourir de cette maladie-là. Mm-hmm. Et elle ne trouve aucun bonheur là-dedans. Là. Elle dit, quand je vais arriver au stade X et que je ne pourrai plus consciemment dire « je veux l'aide médicale à mourir, je veux pouvoir l'avoir fait par des directives anticipées ». Tu comprends? Je comprends le paradoxe du handicap, là, mais il y a plusieurs types de handicap.
Donc, OK, parlons de cette dame. Là encore, il y a tout un appareil idéologique pour soutenir la discussion pour une femme comme celle-là, qui est la notion d'intérêt critique ou d'intérêt critique dans la vie ou d'intérêt événementiel. Alors, on imagine que cette femme-là, elle ne veut pas vivre ça, mais tout à coup, elle a une phase de démence initiale où elle est dans une sorte de béatitude joyeuse. Donc, elle sourit, elle est face au soleil dans sa chambre, elle est souriante, puis elle a l'air heureuse, elle dit bonjour aux gens quand ils rentrent dans la chambre, et là, la famille dit, ben non, ça ne correspond pas du tout à l'état auquel elle pensait être quand elle a signé sa demande d'aide à mourir, et là, on ne veut plus qu'elle ait l'aide à mourir. Ou les médecins qui disent, ben, bien qu'elle n'ait pas conscience de ce qui l'entoure, elle a l'air heureuse. Et il y a même un autre paradigme qui s'appelle le paradigme c'est Margot. Il y a un documentaire qui se fait autour de une documentation qui se fait autour d'un prénom qui s'appelle Margot. Et on décrit Margot dans plusieurs situations où elle a signé, où elle pensait qu'il n'y avait aucun bonheur à vivre. Et où il y a des gens qui lui reconnaissent quand même une forme de qualité de vie. Et là, est-ce qu'on veut mettre fin à cette vie-là? Alors, c'est.
Moi, je suis en faveur de l'aide médicale à mourir. Je suis souvent écrit là-dessus. Pour ce qui est des directives anticipées, je comprends les gens là, qui ont vu des proches mourir de la maladie d'Alzheimer et autres démences, par exemple, de dire « Hey, moi, là, si j'arrive là, je veux pouvoir avoir choisi de mourir par directive anticipée. » Sauf que là, au niveau éthique, tu le soulèves là, il y a plein d'autres obstacles. Là, écoute, ça va être... c'est une autre frontière. Je te le dis, je ne sais pas si ça va se faire. Même si j'espère que ça va se faire.
Effectivement, c'est tout un enjeu. Et moi, j'ai rajouté, je rajoute une question qui n'est pas posée nulle part, qui est le fardeau. On n'ose pas parler du fardeau dans les documents sur l'aide à mourir. On parle de douleur et d'inconscience, mais on ne parle pas du fardeau. Mais entre toi et moi, il y a plein de gens qui se posent pour eux-mêmes la question du fardeau. Est-ce que j'ai envie d'être une fois inconscient? Même si je ne suis pas en souffrance, ou une fois en chemin pour l'inconscience complète, là, je ne suis pas encore en inconscience totale, puis je ne suis pas en souffrance, est-ce que je veux être un fardeau pour ma famille, pour l'État, pour et pour la planète?
Mais ça c'est quoi? Je pense que je comprends que ce n'est pas dans les rapports. Parce que la société produit un rapport, disons. Là. Toi, si tu as un problème avec le fardeau que tu représentes pour tes proches, pour la planète, c'est entre toi et ta conscience.
Mais
la société ne peut pas commencer à te dire « Hey, c'est-tu quoi? » Il y a aussi le paramètre du fardeau que tu représentes pour A, B et C. Ça, ce n'est pas des affaires de la société rendues à la fin de la vie, je pense.
Mais là, on est dans le suicide. On est dans la notion de suicide. En fait, faut être extrêmement délicat parce que, en fait, l'essentiel du débat qu'il y a autour du fardeau, il est dans l'autre sens. C'est des gens qui ont de la difficulté à faire reconnaître leur dignité et que l'État considère comme un fardeau. On l'a vu comme il y a deux semaines où les gens doivent porter des sondes ont de la difficulté à avoir des sondes stérilisées parce que le CLSC considère que ça coûte trop cher puis tombent en infection de façon répétée. Alors là, il faut faire très très attention là. Il y a bien toutes les personnes qui ont des handicaps mentaux ou et physiques et où ils reçoivent pas les services adéquats. C'est plutôt là en ce moment le fardeau. C'est dans l'autre sens. C'est-à-dire l'État ne reconnaît pas la difficulté de vivre et la dignité de vivre à des gens parce qu'ils constituent un fardeau. Mais moi personnellement, Luc Ferrandez, 57 ans, je me pose la question de savoir. Est-ce que si j'arrive dans cet état-là, je veux être un fardeau? Je veux pas que l'État se pose cette question-là sur moi. Surtout pas, parce que s'ils me la posent, ils vont prendre des décisions économiques puis des décisions rationnelles, irrationnelles. Mais personnellement, est-ce que je pourrais signer un document qui disait si j'ai un accident cardiovasculaire, je ne suis pas dans une maladie grave incurable. J'ai pas pu signer consciemment que j'avais une maladie grave, mais j'ai cet accident-là et pendant 10 ans, je suis dans un lit. Est-ce que il y a quelque chose que je peux faire? Une dimension de l'aide à mourir que je peux obtenir pour ne pas constituer un fardeau.
Ce que tu peux faire, c'est demander, je pense, des directives, signer ton formulaire de directives anticipées qui est pas signé par personne, c'est inconnu. Mais ça, je pense que c'est à l'âge avancé, là. Et justement, si t'es déjà malade, t'as une pneumonie, ben là, on va pas s'acharner.
On va pas de soins.
Fait que ça existe, mais encore là, pour moi, il y a des questions éthiques, là, qui sont vraiment, vraiment très, très délicates là-dedans.
Voilà.
Mais je nous souhaite, Luc,
de ne pas avoir à prendre la petite pilule pour ne pas constituer un fardeau.
Encore au moins 3-4 ans.
Okay.
Salut, Luc, on s'en reparle demain, 17h19.